Et maintenant, sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence. Aujourd'hui, on vous propose d'entendre la conférence de Raphaël Colitti, thérapeute, agriculteur et créateur des conservatoires de la biodiversité nourricière et de nouvelles filières agricoles produisant des alicaments. Cette conférence a été enregistrée lors de la foire Biocibel 2018 à Grouillet, qui était organisée par l'association Nature et Progrès Tarn. La conférence s'intitule « Santé et sagesse de la terre ». Bonne écoute.
Je laisse les dernières personnes s'installer avant de commencer. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et en particulier M. Thierry Ginestet qui s'occupe d'une très grande fête qui est Biocibel. Ils s'en rendent peut-être pas compte, mais moi qui viens d'un département voisin, l'Hérault, on n'a pas dans tout le département une aussi grande et fête avec de tels thèmes. Qui sont des thèmes, bien sûr, présents pour notre avenir. Alors, moi, je vais vous parler de biodiversité, mais pas vous parler de concepts. Je veux vous parler de choses réelles, puisque c'est à partir de mon expérience que j'ai pu mettre en place certaines... choses dans la biodiversité qui, en fait, elles relèvent de notre patrimoine alimentaire. Et petit à petit, au fil de ces 50 dernières années, eh bien, ce patrimoine s'est érodé. Il a petit à petit perdu toute sa place, puisque nous sommes à plus de 75% d'érosion de la biodiversité alimentaire. Et on ne se rend pas compte, mais la France, si sa cuisine a été très riche pendant des siècles, c'est qu'elle reposait sur des biotopes très différents. Hein, vous voyez bien que la Bretagne, ce n'est pas le même climat que le Var, et l'Aquitaine, ce n'est pas le même que les Alpes, etc. Et donc, on a pu profiter de toute cette richesse pour l'alimentation. Alors, notre alimentation est en danger du fait de cette érosion alimentaire, mais elle est en danger parce que maintenant, les produits sont faits de plus en plus de façon industrielle. Il y a non seulement une mondialisation dans la production, mais on a perdu vraiment les aliments d'origine. Alors, pour que vous compreniez, puis parce qu'on a le temps, on a 2 heures, donc d'habitude j'interviens sur une demi-heure, 3 quarts d'heure. Là, 2 heures, c'est royal. Donc, je vais quand même vous parler de mon parcours, puisque sinon vous n'allez pas comprendre certaines choses. Alors, pour moi, ça fait 50 ans, il y a un mois, que je suis engagé dans les médecines douces et la biodiversité, la culture en biodynamie. Voilà, j'avais 14 ans et je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi on met autant de chimie? Pourquoi on donne que des médicaments chimiques pour les symptômes aux gens? Voilà, et J'ai voulu en faire mon métier, donc je suis devenu kinésithérapeute et très vite, j'ai appris la naturopathie, l'acupuncture, etc. Et j'ai eu la chance, à 20 ans, alors que je travaillais en rhumatologie, j'ai eu la chance, lors d'une visite à Londres, de rencontrer une personne qui m'a dit, mais avec ce que tu racontes sur ta vision de la médecine, ta vision de l'agriculture, eh bien, je vais te présenter un ami qui travaille actuellement sur un projet dans le sud de Londres pour créer le premier hôpital de médecine alternative. Et donc, c'est vrai que cette expérience a été pour moi déterminante, puisque j'ai pu apprendre la médecine holistique, c'est-à-dire qu'on allait soigner la globalité de l'être, et non pas seulement des symptômes, et non seulement par des réponses allopathiques, mais on allait vraiment par un travail d'équipe de plusieurs types de thérapeutes et de thérapies aller vers la guérison de maladies parfois très graves. Alors, cet hôpital était animé par un médecin exceptionnel qui était le médecin de la reine et des stars de l'époque, et il a mis tout son savoir, il avait 40 spécialités, et il a mis tout ce savoir au service de cette notion d'homme global et de médecine globale. Alors, riche de cette expérience, j'ai voulu faire la même chose en France, parce que j'aurais pu rester dans, comme on dit maintenant, dans ma zone de confort, être avec les stars, on massait les Beatles, les Pink Floyd, James Bond, etc. Mais c'est une médecine qui coûtait très très cher, qui n'était vouée qu'à une élite. Et donc j'ai essayé de mener une petite grève, parce qu'à l'époque j'étais un méchant gauchiste. Et donc j'ai dit voilà, c'est une médecine populaire et elle revient de droit au peuple. Alors bien sûr, ils n'ont pas vraiment compris. Et donc j'ai démissionné et j'ai essayé de créer avec des amis médecins anthroposophes, de créer une petite structure, une petite clinique où on aurait travaillé dans ce sens. Mais tout de suite, le Conseil de l'Ordre a arrêté tout ça. Et vous savez, vous le savez pas, le Conseil de l'Ordre, c'est unique en Europe. Alors je ne comprends pas que les lois européennes n'aient pas évincé ces arrêtés qui datent de Vichy, qui datent du fascisme, en fait. Voilà. Donc, eh bien, en France, on est contraint, on ne peut pas... Moi, en tant que kinésithérapeute, j'avais droit de faire certains actes en Angleterre, mais je n'avais pas le droit de les faire en France, alors que c'est incohérent. J'ai pas pu retravailler normalement tout de suite, parce que quand vous êtes habitué à avoir une équipe pluridisciplinaire et que chacun concourt à la santé de cet homme global et qu'on arrivait à traiter des cancers et toutes les maladies dégénératives, même en fin de parcours, parce que les gens ne venaient là que en dernier recours, eh bien, vous pouvez pas après, du jour au lendemain, travailler chacun dans son coin en disant je suis le meilleur, ma thérapie c'est la meilleure, et voilà. Et ce travail d'équipe m'a beaucoup manqué, et c'est pour ça que j'ai préféré m'occuper d'enfants handicapés à la Croix-Rouge française. Et là, vu que je voilà, dans ma vie j'ai toujours eu cette notion d'innovation, de créativité, et là c'était des enfants qui avait une espérance de vie entre 5 et 6 ans. Et donc, j'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi le corps médical accepte ce principe? C'est pas parce qu'ils sont hémophiles, gravement hémophiles, que, voilà, on doit leur donner des facteurs 8. On doit accepter que dans 5 ou 6 ans, même certains plus tôt. Et donc, j'ai pris le problème à l'envers et je les ai considérés comme étant potentiellement vivants et pouvant survivre à tout ça, et bien sûr, sachant qu'ils allaient mourir, ils ne voulaient pas faire de soins et pas faire de kinésithérapie. Donc je suis allé à l'abattoir prendre une vieille jument et j'ai créé l'équithérapie, ayant étudié avec Madame Mézières l'étirement des chaînes postérieures. Je leur faisais faire de la kinésie sans qu'ils s'en rendent compte, puisque Mézières a trouvé cette méthode en étant elle-même une très grande cavalière, et elle a vu que quand elle étirait les ischio-jambiers, tous les muscles de la colonne, eh bien elle tenait mieux à cheval, elle pouvait guider vraiment avec le bassin les chevaux. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, j'ai commencé à les faire bouger, à leur faire faire un jardin, et ça a été pour moi le début dans ma vie professionnelle thérapeutique où j'ai mis l'agriculture, puisque l'agriculture était, avec la médecine, mes deux passions. Donc, voilà. Là, j'étais dans les champs avec eux, je les faisais bouger, ils n'étaient pas là en train de se morfondre et à attendre la mort. Et voilà, je leur faisais même faire un élevage de lapins pour leur apprendre aussi enfin, la sexualité, parce qu'ils voyaient le mâle sauter les femelles, donc ils se demandaient ce qui se passait. Et petit à petit, c'est des gens que non seulement ils ont survécu, mais je leur ai trouvé du travail. Alors que maintenant, il y a eu des assistantes sociales, il y a des services de tous les côtés, et chacun travaille de façon cloisonnée. Alors, après cette première expérience avec les enfants handicapés, j'ai voulu aussi travailler avec une population autiste, ensuite avec une population carcérale et une population délinquante. Et là, encore une fois, l'agriculture a été pour moi un moyen important qui a su calmer les gens, qui a su ancrer en fait leur énergie à la terre. Hein, c'est pour ça que pour moi, le fait qu'à l'heure actuelle, la majorité des gens se sont déconnectés de la nature, eh bien, c'est aussi un paramètre important qui fait que la maladie gagne du terrain, puisque nous perdons notre immunité, nous perdons le sens des valeurs, nous perdons ce lien très fort que l'homme a depuis toujours avec la terre et la nature. Alors, il y a une trentaine d'années, j'ai pu réaliser enfin mon rêve qui était d'allier ces deux passions, l'agriculture en biodynamie et les médecines alternatives. Alors, j'ai créé au contrefort du Larzac une petite ferme, mais malheureusement, les terres qu'on m'a vendues, c'était d'anciennes carrières, et certaines personnes dans cette salle ont pu le constater. Donc, les carrières, à 40 cm, il y a un peu de pierre, un peu d'argile non agricole. Et moi, j'ai dit, voilà, je vais faire un projet agricole sur cette terre, malgré que la Chambre d'agriculture m'ait dit, non, vous n'avez pas le droit. Aux analyses, il y a 4 d'acidité et il n'y a pas de matière organique. Et que tous les paysans m'ont dit, ben non, tu ne peux pas cultiver, c'est que du caillou. C'est la roche-mère qui descend à plus de, je crois, 500 ou 600 mètres. Moi, j'ai foré 300 mètres sur un lieu où normalement il devait y avoir de l'eau, mais à 300 mètres, il y avait toujours de la poussière. Donc, c'est dans des conditions extrêmement difficiles que maintenant, je peux le dire, que l'univers m'a mis sur ce lieu pour que je fasse preuve de créativité. Et 20 ans après, il y avait des arbres qui sont très beaux, des 1500 oliviers, 1380 arbres fruitiers, de la biodiversité qu'on a pu sauver. Hein, vous avez compris, hein, c'est des variétés différentes. Sur les 1500 oliviers, il y a 400 oliviers différents. Alors au début, bien sûr, même les scientifiques, même l'INRA m'a dit « mais t'es fou, ça sert à rien ». Alors qu'eux sont payés pour s'occuper de cette biodiversité. Et moi, je voulais que ce soit quelque chose d'utile. D'utile à l'agriculture, d'utile à la médecine. Mais je ne savais pas encore par quel bout j'allais pouvoir réaliser ce projet. Alors, quand j'ai eu un nombre suffisant d'expériences, parce que avec les arbres, il faut attendre un an pour avoir une expérience, donc c'est assez long. Et quand j'ai vu que dans chaque variété, par exemple, de pêche, de prunes, de cerises, etc., qui avait des produits très intéressants, qui ne demandaient pas beaucoup d'eau, qui avaient des goûts très intéressants hein, pour le consommateur, pour les chefs cuisiniers, le goût en fait de notre enfance, qui résistait surtout à la maladie, eh bien, j'ai pu le proposer aux agriculteurs de mon département. Étant moi-même président d'une coopérative oléicole qui était en faillite, à qui j'ai redonné de la vie économique, on a pour continuer justement à fédérer les agriculteurs, parce que souvent ils ont besoin d'une structure commune, parce que dans ces coins un peu pauvres, eh bien, il faut se fédérer, il faut s'unir. Alors, étant ancré dans le milieu agricole, j'ai pu réunir les chambres d'agriculture, des présidents d'autres coopératives arboricoles, fruitières, et là, je leur ai proposé des variétés intéressantes, mais peu ont voulu faire les essais. Uniquement quelques personnes ont voulu faire en bio certains arbres anciens. Voilà, pas en planter deux, hein, en planter 1000, 2000. Et pourquoi ? Parce que l'agriculture industrielle, qui est dominante, eh bien, ce sont des variétés nouvelles, adaptées au marché, hein, des fruits qui restent durs, bon, souvent qui n'ont pas de goût. On traite 50 à 60 fois, peut-être même ici, il y a des gens qui ne savent pas qu'une pêche, une pomme, il y a plus de 50 traitements. Alors, je l'ai souvent dénoncé, et les directeurs de ces coopératives classiques m'ont dit il y a quelques années, bah, tu vois, maintenant, on ne fait que 3 ou 4 traitements. Mais bien sûr, ils ont mis des cocktails en mettant 5 ou 6 molécules très dangereuses pour la santé. Voilà, ils font des concentrations de molécules pour faire moins de traitements, mais les poisons sont là. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que on m'a demandé de revoir ma copie parce que, eh bien, l'agriculture productiviste produit en général entre 40 et 45 tonnes à l'hectare, et moi, avec ces fruitiers anciens, en bio, ça ne produit qu'entre 15 et 25 tonnes au mieux, suivant les terrains. Alors on m'a dit, nous, on peut pas, on va aller au casse-pipe, parce que c'est toujours pareil. Ils n'ont pas changé dans leur tête leur façon d'aborder les choses. Ils ont oublié qu'au bout de la chaîne, il y a un consommateur qu'on empoisonne. Alors, j'ai dit, bon. Alors, j'ai cherché comment faire pour trouver des moyens de redynamiser la ruralité. Dans mon village, il y avait 83 agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus que 3, dont moi. Donc, vous voyez bien que c'est fini. Les chemins se bouchent, les prés sont embroussaillés, donc il y a des feux. Et puis le paysage a perdu de sa vie, hein, de sa beauté, puisque rien de plus beau que des arbres avec les petits murets en pierre. Et là maintenant on ne voit que des ronces, voilà. Alors pour moi c'était vital qu'on trouve des solutions. Alors je les ai trouvées du fait de mon passé médical. Et d'avoir ce type de conservatoire, j'ai axé les recherches sur les fruits dans chaque variété, bien sûr, dans chaque espèce, les fruits qui contiennent le plus d'anthocyanes et le plus de polyphénol pour créer des filières de niche pour que l'agriculteur, eh ben, ne soit pas soumis à ce marché qui demande au moins 40 tonnes à l'hectare. Qui demande de traiter à tout va, qui demande d'épuiser la terre, qui demande à ce que l'homme devienne malade. Celui qui cultive est celui qui va recevoir cette nourriture. Alors, en créant ces nouvelles fruitières, ces nouvelles filières de fruits, ça y est, j'ai pu intéresser un plus grand nombre. Et là, les officiels, les chambres d'agriculture ont vu que voilà, il y avait de la création de richesses et on a créé la filière kaki, parce que dans le kaki, il y a un enzyme anti-diabète, donc les labos l'achètent à un bon prix. On a créé, et c'est là où on a eu le plus de succès, on a créé la filière grenade française. Et là, tout de suite, dans les 2 mois qui sont arrivés, déjà, quand on a fait cette première réunion, d'habitude, les agriculteurs sont jamais libres. Et là, non seulement la grande salle de la maison de l'agriculture était pleine, mais il y avait des gens dans les couloirs, il y avait des gens de partout. Donc voilà, on a démarré sur les chapeaux de roue. Et tout de suite, très vite, il y a eu 45 emplois créés. Pas tous à plein temps, hein, comme vous le savez, le temps d'installer les champs, le temps de trouver les variétés, etc. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça qui... Ça m'a renforcé dans mon idée première que c'était possible de recréer de la richesse, de recréer, si vous voulez, une éthique. Parce que pour moi, le bio ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut que les produits soient des produits vivants et faits avec des variétés anciennes. Alors, je pouvais pas l'affirmer il y a quelques années. Parce que depuis une dizaine d'années, dans les congrès de médecine, on me demande d'aller expliquer tout ça. Alors moi, j'y suis toujours allé avec plaisir parce que voilà, le médecin est un des premiers prescripteurs. Mais bon, il rigolait un petit peu, il disait « Ah, tu es passionné, mais on te connaît, on t'aime bien, mais bon. » Voilà, alors j'ai affiné tout ça par des analyses, par travailler avec des cancérologues, des pharmaciens qui avaient des postes importants dans les sociétés françaises. Et avec ces gens qui étaient connus, eh bien, petit à petit... voilà, l'idée s'est installée et donc on a pu vraiment créer un cercle vertueux dans lequel on sauve la biodiversité. Et c'est pas uniquement une biodiversité écrite en latin. D'ailleurs, j'ai eu le grand patron de l'INRA de Paris, c'est quand même un grand monsieur qui dialogue chaque semaine avec le ministre, qui est venu visiter et qui m'a dit « Ah, je vais vous offrir quelque chose, arrêtez de dire que l'INRA ne vous aide pas, je vais vous offrir les noms en latin de tous ces, voilà, de tous ces fruits et légumes que vous avez sauvegardés. » Et là, moi, j'ai dit « Mais moi, ça ne m'intéresse pas, les noms en latin. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit utile, utile pour les agricultures et pour les agriculteurs, utile pour les consommateurs. Et » Et là, donc... En sauvegardant cette biodiversité, on a pu voir que chaque arbre avait un rôle. Par exemple, parmi mes... Alors, la première filière que j'ai pu mettre en œuvre, c'est l'oléiculture, puisque voilà, j'avais 1500 oliviers. Et que donc, je me suis rendu compte, par exemple, qu'une variété d'olive... qu'on ne cultivait plus. D'ailleurs, quand j'ai planté, j'en ai mis 600. Parce que j'ai dit, comment ça se fait que cette variété qui s'appelle l'olivière de l'Hérault, qui ne se fait plus, eh bien, parce qu'elle ne fait que 14 litres au 100 kilos. Alors que la picholine, elle fait 18 litres. La verdale de l'Hérault, 20 litres. Vous voyez, alors 14 litres au 100 kilos, on n'en veut plus. Donc, elle était en train de disparaître. Et en discutant avec des vieux paysans, ils m'ont dit « Oui, mais c'est un arbre qui grossit vite et elle a un goût particulier. » Alors, je me suis dit « Voilà, là, j'ai une piste. » Alors, OK, elle rapporte peut-être moins. Et le hasard a voulu que, voilà, me donne raison. C'est que eh ben, cette variété, c'était la meilleure, par exemple, pour faire des baumes et des huiles de massage. Et très vite, les études que j'ai faites ont attiré des scientifiques du monde entier, des Américains, des Japonais, des Australiens et des Chinois. Voilà. Et un Japonais, un milliardaire japonais qui a une île méditerranéenne qui s'appelle l'île de Chodo, et il m'a dit, voilà, moi je suis fan d'olivier, je veux en planter là-bas, il faut que vous veniez implanter ce que vous savez. Parce qu'entre-temps, j'ai créé l'oléothérapie. Et j'ai fait un centre pour prouver, c'est pas qu'à mon âge, ça m'intéressait de recommencer, mais bon, devant l'incrédulité générale, et personne voulant faire ce projet, alors que j'ai des brevets sur chaque produit, donc les gens étaient protégés et pouvaient le faire sans crainte. je l'ai refait. Et là, ce japonais, eh bien, il a acheté à la coopérative locale qu'on avait sauvée, il a acheté tout de suite, dès la première année, 60 tonnes. Mais il voulait l'olivière, parce que lui aussi avait fait faire des analyses. Et il avait trouvé que cette variété, c'était la meilleure pour la peau des japonaises. Bon. Alors, vous voyez que la biodiversité, ça sert. Ça ne sert pas qu'à regarder, ça sert aussi sur le plan économie durable. Et là, 8 ans après, ben maintenant c'est 100 tonnes qui volent, mais on ne les a pas. L'olivier, il faut le planter, il faut que ça pousse. Donc, il y a des jeunes qui ont planté, etc. Alors, vu qu'on a le temps, est-ce que vous voulez que je m'arrête et que vous posiez déjà des questions? Parce que moi, je suis là-dedans tous les jours. Pour moi, c'est devenu... monnaie courante de traduire.
Est-ce qu'on peut visiter votre domaine ou est-ce que...
Oui, alors très vite. Mais alors, avant, je finis avec... Non, mais je vais vous répondre d'abord. Parce que si je commence avec la grenade... Alors, chemin faisant, je me suis rendu compte que, on résolvait pas mal de problèmes, que j'avais les élus, le préfet, le ministre qui a demandé à savoir, voilà, mais comment ça se fait que les gens payés pour ça n'y arrivent pas, puis que un gars tout seul, arrive à faire des choses que l'État devrait faire. Et je me suis dit, il faut que je fasse circuler l'information. Alors, bien sûr, je prends des jeunes que je paye, parce que, il y en a, ça existe qu'on prend des jeunes, mais on les paye pas. Moi, je les paye 15% au-dessus du SMIC, mais je peux pas plus parce qu'ils savent rien faire. Donc, je me suis dit, je pensais pas que les gens étaient si éloignés de la terre, si ignorants de la nature et d'aller vers l'autonomie alimentaire. Alors j'ai créé un premier sentier, je suis en train d'en créer 3, un premier sentier que j'ai appelé le sentier des cultures, où il y a une 20aine de thématiques, dont bien sûr les arbres, les alicaments... comment faire du charbon de bois avec la taille et mettre des micro-organismes dedans, qui sera l'engrais du futur quand il y aura plus de matières premières. Les abeilles, on a 35 ruches sur les insectes et aussi des cultures parce que on a sculpté. Des moments forts du patrimoine. Moi, j'ai sculpté une vieille dame que j'ai connue qui vivait de glanage. Son mari était mort, elle était veuve, elle avait une petite retraite, elle glanait, elle faisait plein de petites choses, elle allait au marché, elle arrivait à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je l'ai sculpté avec, dans la pierre, avec, etc. Il y a plein de sculptures qui ponctue ce sentier, qui vous apprend une 20aine de thématiques. Ensuite, je suis en train de faire un deuxième sentier sur les cerveaux, parce que c'est pareil, non seulement on a perdu la biodiversité, mais on perd notre agilité cérébrale et à cause de la nourriture, puisque l'intestin, qui est le deuxième cerveau, est en train de provoquer des dégâts énormes. Et nous allons vers, peut-être, certainement, la 6e extinction des humains. Puisque dans 20 ans environ, il y aura 7 hommes sur 10 autistes. Et donc, il n'y aura plus de reproduction. Donc, c'est la fin de l'humain. Donc, moi, je m'inquiétais pour la planète. Mais en fait, c'est l'humain qui va périr avant. Donc, par l'alimentation qui, maintenant, il y a trop de nanoparticules. Elle est tellement polluée à tous les niveaux que l'intestin ne fait plus sa fonction. D'ailleurs, même les médicaments allopathiques ne peuvent plus passer la barrière intestinale. Donc, il nous reste plus que la barrière, il nous reste plus que l'absorption perlinguale. Voilà. Et ça pose vraiment des problèmes, même pour la médecine normale. Hein. Les antibiotiques font plus effet. Enfin, voilà. Et un troisième sentier où les gens vont faire sur 3 km voir le travail de l'homme pendant des siècles sur ce lieu et en faisant de la gym. Mais de la gym, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance d'être formé par Madame Mézières il y a 40 ans, où on va travailler à la fois sur le muscle en étirement, où on va regarder la nature. Vous voyez, il va y avoir un mélange de travail sur le corps, sur la nature, sur la contemplation, etc. Voilà pour répondre à votre question. Alors, c'est au pied du Larzac, dans un petit village médiéval qui s'appelle Saint-Privat. Voilà, et juste au-dessus, il y a le centre Cantercel dont notre ami architecte chercheur fait des choses magnifiques par rapport à l'habitat.
Vous écoutez la conférence de Raphaël Colitti, thérapeute, agriculteur et créateur de conservatoires de la biodiversité nourricière et de nouvelles filières agricoles produisant des alicaments. Cette conférence est enregistrée lors de la foire Biocibel 2018 à Groyer, qui était organisée par l'association Nature et Progrès Tarn.
Oui, je voulais savoir, je souffre soi-disant de fibromyalgie depuis presque 5 ans. Et malgré les traitements de kinésithérapie, de médicaments, d'herbes, de choses, de médecine parallèle aussi, j'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Et je voulais savoir, comme vous êtes kiné aussi, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, de cette maladie quand on ne sait pas ce que c'est, on dit ça. Voilà.
Alors, la première chose que je pense de cette maladie, c'est que c'est une maladie fourre-tout. Le médecin, quand il ne sait pas, il dit c'est une fibromyalgie. Et comme ça, il est débarrassé d'une cliente difficile. Ensuite, eh bien, en ayant une approche globale de la maladie, on va essayer de voir au niveau de la symbolique. Qu'est-ce que cette maladie représente pour la personne? Qu'est-ce qui se passe au niveau des flux énergétiques en prenant les poux d'acupuncture, hein, des 12 organes, voir où est-ce qu'il y a un excès, où est-ce qu'il y a une carence. Ensuite, il y a des interrogatoires de la personne, voir où est son mal à dire, etc. Donc, voilà, moi j'aurais cette approche globale, mais beaucoup de thérapeutes et de médecins maintenant se tournent vers cette ouverture thérapeutique. Et donc, moi, je vous conseille d'aller voir des gens qui sont ouverts et pas qui ont juste 10 minutes, parce que les pauvres, je les comprends, ils ont 10 minutes pour regarder de loin la personne et vite prescrire un médicament symptomatique classique qu'ils donnent à tout le monde et vite faire votre carte vitale. Voilà. Et donc, comment voulez-vous investiguer une pathologie qui a peut-être mis 40 ans avant de venir? Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je vais continuer. Donc, moi, ma philosophie, c'est d'être pratique. Donc, déjà, je vais, au lieu de vous mettre plein la tête, je vais déjà vous parler comment, parce qu'ici, j'ai vu qu'il y a quelques oliviers, comment mieux utiliser les oliviers qu'on a près de chez nous. Là, j'arrive le département de l'Hérault et le ministère de l'Agriculture m'ont envoyé en Tunisie il y a quelques semaines. Ça m'arrangeait pas, mais bon, j'ai dit allons-y, pour justement les aider à valoriser autrement, en plein désert, des oliviers millénaires. Et des choses simples, les savoirs se sont perdus. Alors, moi, ma vision de l'olivier, c'est qu'il faut tout utiliser, comme dans le cochon. Alors, à commencer en ce moment par les jeunes pousses de feuilles. C'est simple, vous les avez dans votre jardin, vous cueillez les feuilles, vous en faites sécher pour le reste de l'année, et rien que parce que la jeune pousse, vous pouvez en faire de la gémothérapie, hein, vous pouvez faire des macérats glycérinés, et là, ça prend toute la puissance de l'arbre. Et l'olivier est un arbre très puissant puisqu'il est millénaire, puisqu'il est à la base de nombreuses religions monothéistes. Et que Jésus, qui était un grand chaman, c'est lui qui l'a utilisé en premier. Alors, excusez-moi, mais depuis ce matin sur le stand, je parle sans arrêt. Alors, cette feuille d'olivier, si vous l'utilisez en gémothérapie, elle va être potentialisée parce qu'il s'agit de l'embryon de la feuille. Et comme vous savez, la gémothérapie utilise les cellules souches de ces jeunes pousses pour vous donner toute la puissance de l'arbre. Dans 15 jours environ, il y aura les fleurs. Et là, c'est de la vraie bombe. En plus, c'est encore plus facile à récolter. Vous mettez un drap blanc dessous, les fleurs vont tomber toutes seules. Elles vont tomber pratiquement sèches en plus. Donc vous voyez le minimum de travail que vous avez à faire. Donc vous vous rendez bien compte que si vous voulez prêter un minimum d'attention, combien la nature est généreuse. Mais la nature, on ne connaît plus. Ce qu'on veut maintenant, c'est courir acheter. Courir acheter, acheter des trucs en boîte, des trucs qui sont morts en fait. Voilà. Et les compléments alimentaires, eh ben c'est mort aussi. Et vous verrez, il va y avoir des scandales qui seront révélés bientôt sur tous les compléments alimentaires qui, soi-disant, sont naturels, mais qui n'y a plus rien dedans. Voilà. Donc, ce qu'il faut, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des choses comme ça, pratiques, manger du frais, de faire à votre jardin ou une jardinière, mais d'avoir ce plaisir de couper cette salade et de la manger. Voilà. Il faut une alimentation vivante, il faut arrêter avec le bio-industriel, il faut aller acheter pas loin de chez vous, parce que ça va plus loin que juste manger, de visualiser à qui vous achetez, à ce producteur, vous le voyez, de voir sa terre en plus, vous allez prendre l'énergie de cette personne en même temps, et l'énergie de la terre où est cultivée ce légume ou cette viande, ou la vache ou la brebis a grandi. Vous voyez, on a oublié que nous sommes un avec entre ciel et terre, et nous formons qu'une grande unité. Et tout ça, on s'est détaché, on se croit les plus forts, parce que l'homme veut dominer la nature. Alors, après, il y a plusieurs façons de faire de l'huile, etc. Mais là, pas tous peuvent le faire, c'est plus compliqué. J'ai mis des années pour retrouver les huiles médicinales que faisaient les Grecs. J'ai battu le record du monde de polyphénol, d'hydroxythyrosol dans mes huiles parce que justement j'ai pris les oliviers qui en avaient le plus. J'ai fait un brevet sur la façon d'extraire parce que on extrait maintenant avec des moulins qui tournent entre 10 et 15 000 tours minute, alors que nous avec la pierre on extrait à 5 tours minute, et 5 tours minute c'est le rythme de l'homme. Donc voilà, il faut que les gens comprennent qu'il faut revenir à l'humain. Pas uniquement dire, voilà, l'homme, c'est bien, mais venir à tout ce qui est de l'énergie de l'homme. Voilà. Et ce monde va trop vite. Ce monde introduit des nanoparticules pour économiser de la farine industrielle dans des gâteaux pourris. Enfin, pour gagner encore plus. Mais ces nanoparticules, elles vont nous empoisonner pendant 20 ou 30 ans. Enfin, voilà. Vous voyez bien, mon but, c'est pas d'être alarmiste, c'est de trouver les solutions. Alors, après, si vous voulez, je peux vous parler de cette filière grenade qu'on a mis en place avec un très grand succès sur le nombre d'emplois, mais sur le nombre aussi d'actions thérapeutiques qu'on a pu mener avec ça. Parce que là, déjà, quand il y a beaucoup d'hydroxythyrosol dans l'olive, eh bien, c'est un polyphénol qui, lui, va aller au cœur de la cellule, au cœur de la mitochondrie de la cellule, et il va la régénérer. Donc, évidemment, mes amis cancérologues, voilà, ils ont vu les résultats. Mais la grenade, c'est très puissant aussi. La grenade, elle a encore 60 particules dont on ne connaît pas les actions médicales. Mais ce sont des bombes de soins. Et moi, donc, pareil, j'ai un jus de grenade et un extrait de totum de grenade où j'ai 37 fois 37 fois l'élagitanin, qui est le polyphénol de la grenade, dans ce jus, parce que j'ai fait un brevet d'extraction. Parce que c'est toujours pareil. Voilà, ils mettent dans des grosses presses, ils turbinent. Mon ami, le professeur Joyeux et le professeur Curtet, ont fait analyser tous les jus qu'ils ont trouvés dans les magasins bio. Eh ben, 67% étaient frelatés avec du jus de sureau qui coûte 80 centimes, avec de l'eau, des grenades qui étaient pourries, qui étaient... voilà, parce que les Américains, c'est les spécialistes. Tout ce qui n'est pas bon pour la bouche, qui a éclaté parce qu'il y a eu des fortes pluies, de la grêle, hop, ils le mettent dans le bac à jus. Mais voilà, c'est pas terrible parce que ça peut donner des mycoses, etc., intestinales. Alors, et 60 millions de consommateurs, quand ils ont vu le rapport, ils ont dit oula, et donc ils ont confirmé tout ça. Donc déjà, quand on a créé cette filière, j'ai dit aux agriculteurs, parce que 30% des agriculteurs voulaient continuer à faire leur saloperie, quoi, chimique. Ils voulaient continuer à cultiver ça en non bio. Et moi, j'ai dit non. Je démissionne si 100% des agriculteurs ne sont pas bio. C'est un minimum. Parce que là, nous allons faire des alicaments et il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, ceux qui ne... ils sortent de cette filière. Alors, ça a été mal pris, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que, en plus, la grenade, il n'y a pas besoin de traiter. Et là, je pense à une personne qui a insisté, qui nous a mis un peu le bordel. Et lui, il traitait à tout va, parce que quand il traitait le cerisier, il continuait sur les grenadiers, il avait la machine. Il dit, tu comprends, j'ai la machine enclenchée, et j'ai le truc encore dedans, ben j'y vais. J'ai dit, mais attends, mais tu empoisonnes ton prochain. Alors, le grenadier n'a pratiquement pas de maladie. Alors voilà. Donc non mais moi je suis dans le milieu. Je vois des agriculteurs tous les jours. Je discute avec eux et c'est grave parce qu'on leur a mis tellement de croyances dans la tête, tellement de que la poudre blanche, eh ben c'est bon. Il y a que ça qui peut faire pousser. Mais faire son compost, tout ça, ben non, ça c'est pour les hippies. Vous voyez. Donc, et moi j'ai même mon maçon qui m'aide parce que j'arrive plus à faire. Tous les travaux maintenant, j'ai pris un maçon du village qui est un ancien viticulteur et quand je lui fais goûter un fruit qui est extraordinaire, qu'il y a des gens qui payeraient, qui voudraient le goûter, il me dit c'est bio, le bio lui fait peur. Non mais je sais pas, voilà, bio pour lui c'est comme si moi le produit chimique, bon je sais pas comment ils ont été manipulés, mais c'est assez grave. Voilà, donc si vous voulez il reste encore du travail à faire. C'est pas parce qu'il y a tout ce monde ici à Biocibel qu'on a gagné. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour la grenade, eh bien, ce sont les élagitanins et l'acide punicalagine qui va agir. Alors, la première action de ces deux polyphénols vont se faire sur le cœur. Ils vont réduire la plaque d'athérome. Et j'ai la chance de travailler avec l'ancien cancérologue de Mitterrand, Tadé Navroki, qui, dès que Mitterrand est mort, ils l'ont expulsé, parce qu'il ne faisait que des méthodes naturelles, mais en attendant, il a fait vivre Mitterrand 15 ans de plus, et il a trouvé refuge à Genève, en Suisse, et là, il a une clinique. Et alors lui, il utilise mes produits, alors lui, il fait un jour cette huile riche en polyphénol, et un jour la grenade, parce que, par exemple, pour la plaque d'athérome, l'huile d'olive va... attaquer sur les côtés, la plaque d'athérome dans les artères, et la grenade va l'attaquer de face. Donc, vous voyez, il y a des compléments. Là, c'est juste sur la plaque d'athérome, mais il y a d'autres complémentarités. Voilà. Et donc, moi, ce qui me plaît, c'est que maintenant, des grands scientifiques ont pris au sérieux le fruit. Enfin, ce qu'on peut tirer du fruit, et non plus que des molécules chimiques. Parce que jusqu'à maintenant, si ça n'avait pas un nom de molécules chimiques, ça n'était pas sérieux. Voilà. Et moi, je l'ai vu en faisant... des conférences dans les congrès de 1000 médecins, que tant que vous ne donniez pas des formules chimiques, mais maintenant ça y est, voilà, ça y est, ils ont compris que à l'heure actuelle où il y a un stress oxydatif tellement puissant, où il y a tellement de perturbateurs endocriniens, de pollution par les engrais chimiques, eh bien, il y a une oxydation importante dans le corps. Et pour contrebalancer cette oxydation, il faut des polyphénols, des antioxydants. Voilà. Et donc, pour la grenade, ça va agir sur les intestins, ça va agir sur le, la prostate. Moi, avant de faire un brevet, quoi que ce soit, moi, j'ai travaillé sur une centaine de mes clients sur, qui avaient des taux de PSA élevés. Ils ont tous baissé. Sauf il y avait un papy qui avait un cancer. Alors là, ça lui a, ça a même augmenté, lui. Bon, là, ça devait... voilà, son urologue m'a dit, mais de toute façon, c'est trop tard. Mais maintenant, beaucoup d'urologues font boire des jus de grenade et des concentrés de totum à leurs clients. C'est aussi pour la prévention du cancer du sein. En fait, tout ce qui est un peu hormones, voilà. Ensuite, vous avez des actions de... donc des actifs de la grenade sur les vers. Ça semble banal de parler de ça à notre époque, mais pour ceux qui ont mon âge, eh bien, on nous mettait un collier d'ail autour du cou, on nous vermifugeait deux fois par an, et maintenant, voilà, alors que la nourriture est pire. Et donc, il y a beaucoup de troubles du comportement dus aussi à ce que les enfants, les adolescents sont pleins de vers. Et la grenade va avoir une action là-dessus, et même sur le ténia. Ensuite, donc, là, je vous ai parlé de tout cet appareil urinaire, et donc, voilà, on se rend compte que ben, un fruit comme ça peut être un allié très utile. Alors, la dame demande à quelle quantité par jour. Ça, c'est une question qui veut rien dire. Quelle quantité de quoi ? Alors, le grenade, si vous voulez une action thérapeutique, quand il y a une maladie, je ne vous conseille pas de manger une grenade, parce que déjà, il faudrait que vous en mangiez une dizaine, et ça va vous irriter. Donc, je ne sais pas pour quelle... Il faut savoir la pathologie, sinon on parle dans le vide. Ah, pour vermifuger. Alors là, à ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est un totem où il y a de la grenade, il y a de l'écorce dedans, il y a du grain, il y a de la feuille et il y a un tout petit peu de la branche. Et il y a 4000 ans, les Égyptiens vermifugeaient la population avec l'écorce. Mais maintenant, il faut être prudent parce que il y a un petit toxique là-dedans. C'est pour ça que moi, j'en mets un peu. Je ne fais pas que avec l'écorce, mais j'en mets un peu et je fais ce que j'appelle un totem.
Si vous voulez parler, poser des questions à M. Colissi, vous pouvez le faire avec Colissi, Raphaël Colissi. Vous pouvez le faire avec le micro parce que nous enregistrons cette conférence. Elle va passer dans deux radios locales, Radio Autant et Radio Albigès. Donc, comme ça permet d'avoir un bon suivi aussi également. Quand si vous voulez poser des questions, posez-les au micro parce que c'est enregistré. Voilà.
Je voulais savoir, avec les fleurs d'olivier, tout à l'heure vous avez parlé des fleurs d'olivier, avec le drap, est-ce qu'on fait une décoction ou une tisane ou qu'est-ce qu'on peut faire avec?
Alors le mieux, c'est une décoction, puisque là vous allez vraiment tirer le maximum des actifs de la fleur. Je parle pour vous, simplement, mais après le meilleur, c'est la fleur de Bach. Là, c'est tout un rituel. Le docteur Bach, quand il a inventé ça, voilà, il faut le faire avec du cognac, il faut même le dynamiser. Enfin bon, voilà, il faut le mettre au soleil, etc. Donc, pour la simplicité, la décoction, vous laissez reposer. Donc, après 20 minutes d'ébullition, vous laissez reposer. Vous mettez fermé, parce que vous n'allez pas tout boire d'un coup. Et le mieux, c'est au frigo ou à l'ombre, au frais, à l'ombre. Et là, vous vous faites une cure de 3 semaines. Alors, la fleur, je le répète, hein, parce que je vous donne peut-être trop d'informations. La fleur, c'est quand vous avez une dépression. Voilà. Mais pas la petite dépression, la grosse dépression. Quand vous avez une fatigue, hein, la grosse fatigue. Vraiment, c'est puissant. Hein. Voilà. Alors, en ce moment, va sortir dans quelques semaines un nouveau médicament qu'a inventé le professeur Fortillant, mais il se bat pour ça avec le professeur Joyeux, parce que dès que les gens ont un petit bobo, on les met avec des drogues qui vous mènent à l'hôpital psychiatrique. Là, je suis un peu fatigué, je ne me rappelle plus la formule, mais tu le sais peut-être, Sylvie. C'est la mésempile. Docteur, vous le savez peut-être. Bon, bref, c'est la mésempérine. Et quand vous avez goûté ça, il y en a dans l'exomil, il y en a un peu partout. C'est dur de s'en passer après. Après, on est addict. Et les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens parce que maintenant, ils ne peuvent plus s'en enlever. Et donc, heureusement, un grand pharmacien, le docteur Fortillan, mais il s'est protégé. Il a mis 50 brevets parce que ce sont plus de 20 milliards par an, ces médicaments-là. Rien que pour vous endormir. Eh bien, il s'est protégé avec 50 brevets parce que où ils vont le flinguer. Et donc, lui, il a créé un nouveau médicament. Il s'appelle la ventolinine. Bref, ça sort dans 15 jours. Ça devait sortir il y a un an, mais il est empêché. Donc, en attendant, prenez de la fleur d'olivier.
Vous écoutez la conférence de Raphaël Colitti, thérapeute, agriculteur et créateur de conservatoire de la biodiversité nourricière et de nouvelles filières agricoles produisant des alicaments. Cette conférence est enregistrée lors de la foire Biocibel 2018 à Groyer, qui était organisée par l'association Nature et Progrès Tarn.
D'autres questions ?
Merci. Comment on peut faire pousser et des grenades et des olives ? Parce que j'ai essayé pas mal de fois et...
Eh ben,
ni
monsieur,
en bouturage, ni en germination, j'ai réussi.
Alors, en bouturage, si, vous allez y arriver, mais vous avez dû faire une erreur. Par contre, eh ben, encore une raison, pourquoi c'est utile la biodiversité ? Pourquoi ? Moi, chaque fois que je crée une nouvelle filière, je fais une gamme du froid qui résiste pour le kaki à moins 40, pour les vignes à moins 30. J'ai 760 raisins de table, et ben voilà. Et pour la grenade, j'ai fait une ligne pour les pays froids, évidemment. Et pour l'olivier aussi. Nous avons sur le Larzac un olivier qui n'a pas gelé en 56. Il gèle à moins 25, moins 27. Et ben voilà, je l'ai multiplié pour les gens du Nord. Au lieu que les gens du Nord achètent des oliviers en Espagne, parce que c'est un gros business. Et en plus, ils achètent des oliviers millénaires. Mais là, on s'est pourvu en plusieurs associations et on a fait plier le gouvernement González à l'époque pour plus qu'ils arrachent ces oliviers patrimoniaux qui avaient plus de 2000 ans. Donc, vous pouvez, grâce à la biodiversité, cultiver tout ça. Bon, bien sûr, c'est mieux au sud et c'est mieux contre un mur au sud. Même les figuiers. Nous, on a retrouvé des figuiers... Eh ben, qui sont cultivés en Suède. On a des correspondants en Suède, on leur fait cultiver, on observe, ben, ils mangent des figues. Donc, vous voyez que c'est riche, la biodiversité, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais on l'a réduite à... On met un nom latin et on regarde cette belle arbre. Oh, il a des belles feuilles comme ci, comme ça. Non, la biodiversité est au service de notre autonomie alimentaire. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pas parce que vous avez un petit échec de bouturage, ça c'est secondaire. Si vous aviez les conditions hydrologiques, les conditions de chaleur, votre bouture elle prend. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il faut choisir la bonne variété. Donc voilà, être au courant de la biodiversité. Oui oui, il n'y a pas de problème, nous organisons des bourses toute l'année. Là je viens de faire un congrès... où il y avait 1000 personnes, et j'ai distribué 2000 sachets de graines, j'ai distribué 2000 boutures et quelques sillons, parce que peu de gens savent greffer. Voilà. Et donc, nous employons à divulguer la biodiversité. Et partout en France, il y a des associations, comme celle que je dirige, Fruits Oubliés, il y a les croqueurs de pommes, il y a les semences paysannes, qui font que ben voilà, tout le monde peut partager, puisqu'on crée... 3 fois par an des manifestations sur les échanges de graines, sur les échanges de greffons, etc. Bon, après, pour donner 2000 machins, c'est parce que j'ai voulu taper dans la fourmilière. Et le médecin qui organisait ce congrès, j'ai dit j'y participe à condition que les gens mettent la main à la pâte, qu'ils aient ce rapport humain à la terre. Sinon, je ne viens pas. Voilà. Parce qu'il faut arrêter les paroles. Il faut agir, c'est urgent. Le moment est assez grave quand même, puisque je vous ai dit, nous allons vers l'extinction, vers la 6e extinction de l'humanité, à grands pas. Vous verrez, vous repenserez à moi dans 10 ans.
Comment est-ce que vous faites pour choisir la bonne sélection d'oliviers en fonction du terrain ? Comment vous faites pour choisir la bonne variété qui correspond au terrain ?
Vous êtes où ? Ah !
Ici.
D'abord, c'est le porte-greffe qui doit nous guider. C'est toujours le porte-greffe qui choisit le terrain.
Qu'est-ce que c'est un porte-greffe ?
C'est ce qui va permettre... il faut que ça soit de la même famille. Mais moi, sur l'olivier, j'ai tout essayé. J'ai même greffé sur chêne, etc. Mais pour une pêche, par exemple, il y a certains porte-greffes sur certains terroirs qui vont donner un goût meilleur, une meilleure résistance. Mais ça s'apprend, je ne peux pas vous...
Je vais un peu plus précis. Est-ce que la présence de certaines cultures, par exemple, de certains types de vignes, certaines variétés de vignes, ont des affinités, entre guillemets, pour certaines cultures d'oliviers ? Est-ce qu'il peut y avoir des compatibilités ou pas ?
J'ai pas bien compris. Comment vigne avec l'olivier ?
Est-ce que la présence de certaines cultures sur le terrain sont des indicateurs pour certaines variétés d'oliviers ?
Non, ça n'a pas de... Et en plus, vous venez de choisir la vigne. La vigne et l'olivier, ce sont deux arbres mythiques de la Méditerranée. Ils vont ensemble, pas de problème. Non, le problème n'est surtout pas là. Le problème, c'est de choisir le porte-greffe en fonction si c'est un terrain marécageux, si c'est un terrain argileux, si c'est un terrain profond.
Oui, merci.
Donc, vous voyez que non seulement nous avons perdu... les chiffres disent 75%. Je pense que c'est plus parce que ça galope. Ça va tellement vite. Alors, il y a un autre élément dont je voudrais vous faire part qui maintenant fait que, pour moi, c'est beaucoup plus facile... quand je veux convaincre des gens et surtout le corps médical, c'est que grâce à deux études américaines, deux études canadiennes et là dernièrement une étude israélienne, eh bien ils ont démontré que les fruits modernes ont jusqu'à 100 fois moins de vitamines, d'oligo-éléments et de polyphénols. Donc les scientifiques se sont en train de s'emparer de cette problématique et ils appellent maintenant les variétés modernes de légumes et de fruits, des variétés creuses, des aliments creux. Alors, si vous consommez même en bio ces aliments-là, vous êtes obligé de prendre des compléments alimentaires, vous êtes carencé, vous êtes fatigué. En plus, si vous êtes végétarien, vous êtes cuit. Voilà, parce que c'est pas suffisamment nourrissant. L'exemple par rapport à la vitamine C, c'est la pomme. Il y a 100 fois plus de vitamine C sur une pomme d'avant-guerre qu'après-guerre. Et je vous dis pas, les maladies, le manque de résistance à la sécheresse, le manque de résistance au froid. Donc, on n'a aucun intérêt. Par contre, les grands trusts, ils ont intérêt. Parce que il faut que vous sachiez que sur un arbre moderne, il y a 3 euros qui vont à une multinationale. Parce que c'est eux qui les ont créés, ces variétés. Pour que nous perdions notre patrimoine alimentaire. Et donc, voilà, il faut que les peuples se révoltent un peu. Si vous gobez tout, si vous achetez parce que c'est beau, les feuilles sont bien brillantes, voilà, et il faut vous préoccuper de votre avenir. Vous êtes responsable de votre destinée.
Simplement, rappeler, tu parlais des personnes qui se soucient de conserver dans le département du Tarn, pour ceux qui ne sont pas tarnés, nous avons un verger conservatoire qui est l'émanation du conseil départemental, qui fonctionne depuis 20 ans et qui est chaque année pris d'assaut pour, et qui vend des sillons en décembre. Et ils sont pris d'assaut parce qu'il y a un nombre incalculable de gens qui vont se fournir maintenant un arbre qui s'était soi-disant oublié, et ils travaillent toute l'année sur tous ces végétaux. Voilà,
simplement oui, le rappeler. Les gens se rendent compte que ça ne peut pas durer, ils ne peuvent pas dépenser tout leur argent, même les agriculteurs, à traiter 60 fois. Mais vous vous rendez compte ? Et en plus, quand ils traitent, ça va... maintenant, il y a des lotissements à la campagne. Ben, les gens des lotissements, ils le sentent, hein, ils sont mal. Il y en a qui portent plainte, les pompiers viennent, enfin... Bon, c'est terrible, quoi. Alors, il faut revenir à plus de respect de cette nature et de l'homme, en fait. Donc, les variétés que nos grands-parents... Mais ils n'ont pas fait ça en un clic. Ils ont mis, voire presque 1000 ans pour... sélectionner les variétés. Donc ils nous ont légué un capital énorme. Eh ben, ce capital, personnellement, avec d'autres amis, comme je vous ai dit, les croqueurs de pommes à fruits oubliés, où j'ai un stand à la place 75 avec mes produits, eh bien, on se bat et on est illégal en plus. Moi, j'ai eu des amendes déjà. Alors que je fais le travail de l'État, je donne du travail aux jeunes, je préserve le patrimoine, mais c'est parce que c'est pas du patrimoine de pierre, c'est un patrimoine immatériel, vous comprenez ? Alors, ça a moins de valeur, on s'en rend pas compte, mais pour nous, c'est de l'histoire, voilà. Et il faut le préserver, alors, il y a un mouvement qui se fait, mais c'est pas assez fort. Et puis, je répète, c'est pas parce que c'est bio qu'on est sauvé. Il faut que ça soit bio, mais avec des variétés anciennes. Et vous verrez la différence quand vous allez dépenser, parce que vous allez le payer peut-être 10 ou 20% de plus, mais vous allez être nourri, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez être rassasié, vous allez le ressentir, vous verrez.
Au niveau européen, il semblerait qu'il soit passé, d'après José Vauvé, la possibilité maintenant de vendre les semences anciennes, justement. Les paysans vont pouvoir enfin utiliser des semences anciennes et pas forcément brevetées. Donc peut-être qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain exactement ? On ne sait pas trop, mais pour l'instant, l'ouverture est faite.
Oui, c'est une ouverture. Mais attention, moi, personnellement, je suis allé à l'Assemblée nationale il y a 2 ans pour plaider cette cause. Les sénateurs ont voté, aux députés, et les sénateurs ont abrogé cette loi. Tant qu'on n'aura pas la loi votée en France, on n'aura pas le droit, nous sommes illégaux. Voilà. Mais, par chance, le mouvement français des jardiniers, parce qu'il y a des millions de jardiniers, donc des millions d'électeurs qui échangent les graines plus que des arbres, vous voyez ? Et grâce à ce mouvement par rapport aux graines, on risque de gagner, parce que là, maintenant, c'est vraiment des millions de gens qui jardinent. Et il faut vraiment, parce que jardiner, presque devant ce refus, c'est devenu un acte politique. C'est pour ça qu'avec Incroyable Comestible, nous, on va même greffer la nuit des trucs sauvages publics, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter des bons fruits. Et au lieu que ça fasse que des fleurs, comme veulent certains maires, mais ça, c'est en train de passer. Là, on fait une action dans 15 jours, pas loin de chez moi. On a appelé ça la fruit invasion. Donc, on va dans la ville et on plante, on greffe, et après on dit, on a trouvé les habitants qui sont à côté. Eh ben toi, est-ce que ça t'intéresse ? Ah oui, moi ça m'intéresse, je vais m'en occuper. Et puis on partagera les fruits avec mon voisin, etc. Vous voyez, ça donne du sens, ça crée des liens. Et là, on va pas pouvoir planter grand-chose parce que la saison est avancée. Mais c'est pour préparer la grande fête de l'arbre cet hiver, où là on va faire une grande invasion. Et là, on va planter plutôt des petits fruits, des fraisiers, tout ce qui est un peu petit, aux quatre coins des rues, où il y avait des ronces, où il y avait de la broussaille. Le maire est d'accord, il va même nous donner 2 hectares, parce que je veux faire un verger partagé, parce qu'il y a des jardins partagés, mais ça n'existe pas, les vergers partagés, et où au milieu, on mettra du pois chiche, des patates violettes d'Okinawa que j'ai sur le stand, bref, toutes des choses pleines de polyphénol, et à plusieurs, si les gens ne se sentent pas de le faire tout seul, eh ben voilà, il faut que collectivement, il y en a qui vont se sentir plus fort à plusieurs.
Oui, il y a ma fille, il y a 2 ans, qui a été diagnostiquée cœliaque, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, et plein de gens qui ne le savent pas et puis qui vont peut-être devenir cœliaque. Donc la maladie cœliaque, c'est des gens qui ne peuvent plus manger de gluten. Oui.
Alors là encore, c'est un fourre-tout, Sylvie. Là encore un fourre-tout, quand on ne sait pas, hop, on met cœliaque, alors que il y a plus de 40% de la population qui subit des colites. Colite intestinale, ça veut dire une inflammation du côlon. Et chez ces personnes, l'inflammation s'est chronicisée et du coup, il y a une réaction allergique. Mais c'est là qu'on peut vraiment avoir des réponses par l'alimentation, par la diététique. Et on a la chance d'avoir ici une habitante de Groyer, Sylvie, qui va vous répondre.
Oui, il existe. Dans un premier temps, on ne savait pas comment fonctionnait réellement l'intestin. On a la chance d'avoir un chercheur français, gastro-entérologue de base, cancérologue, Bruno Donatini, qui vit à Reims, où on a travaillé tous les deux avec. Et c'est vrai qu'il a mis en place une manière de voir l'état de nos intestins qui n'est absolument pas invasive, qu'on commence à écouter de l'autre côté de nos frontières et absolument pas en France. Et on le bannit d'un petit peu partout. Il a vraiment beaucoup de mal à former des médecins et des gastro-entérologues encore plus. Et moi, j'ai la chance d'être formée. Voilà, dès le départ, la première fois où je l'ai rencontré, j'ai dit « Enfin, un gastro-entérologue qui a compris quelque chose aux intestins, il faut que j'y aille. » Et c'est vrai que quand on a compris le système, ben, on sait aujourd'hui que la muqueuse de l'intestin peut se réparer jusqu'à 98%. Et même au-delà, je vais dire, des constatations que j'ai pu faire moi aujourd'hui, mais déjà 98%, c'est extraordinaire. Et du jour au lendemain, on peut ne plus être allergique à. Voilà. Mais quand je dis du jour au lendemain, c'est pas comme ça. Hein. C'est tout un cheminement qu'on va faire et qu'on va mener. Mais on n'arrive pas non plus avec une bizarrerie à la naissance. Il faut aller chercher au niveau de la généalogie, etc. Quand Raphaël parle aussi du mal à dit, ben voilà, en 2020, vous aurez tout un forum là-dessus et surgrouillé. Voilà, et vous aurez la possibilité d'entendre des spécialistes, mais qu'on n'entend pas suffisamment au niveau de la médecine, mais qui vont vraiment. Ben voilà, la médecine aujourd'hui, la vraie médecine, elle n'est pas exempte de l'écologie, bien au contraire. La terre et nous, ça fait deux. Nos intestins, c'est la terre. Et si la terre ne va pas bien, nos intestins ne vont pas bien. Et juste la rectification que je veux faire, nos intestins, c'est notre premier cerveau. Voilà.
On ne va pas chipoter. Parce qu'il y en a plein des cerveaux. Et justement, je salue moi aussi le docteur Donatini qui nous a formés. Et vraiment, c'est voilà, il faut travailler là-dessus et non pas donner une réponse chimique d'un anti-inflammatoire. Lui, il travaille avec la mycothérapie, avec les champignons et les huiles essentielles, et il fait régresser les cancers. Il est cancérologue, entérologue, et sa méthode est vraiment formidable. Alors, moi, je ne la fais plus maintenant parce que j'ai plus le temps. Et il y a tellement le feu partout ailleurs que je vais éteindre d'autres incendies.
Pour revenir au début de la conférence, comment vous avez réussi, à partir d'un terrain ingrat, stérile, avoir des résultats aussi intéressants?
Ben déjà, il faut beaucoup de volonté, parce que à l'heure actuelle, trouver un ouvrier pour travailler la terre, ça devient une galère. D'ailleurs, je ne comprends pas que toutes ces civilisations qui se succèdent depuis la nuit des temps, eh bien, il n'y en a aucune qui a mis en avant l'agriculteur comme personnage important dans la civilisation. Hein, l'agriculteur, c'est la dernière roue de la charrette. Donc, déjà, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Et alors, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai fait venir, voyant qu'il y avait des cailloux et la roche, j'ai fait venir un gros tractopelle, et le gars, quand il a fait comme ça, les dents ont rebondi, il a dit « Oula, monsieur, je vais casser mon engin, et vous, ça sert à rien, ça, rien ne poussera. » Il était spécialiste des terres. Voilà, c'est le gars qui vient charruer avant la vigne, vous voyez. Chez nous, il y a beaucoup de vignes, voilà. Il fait des travaux agricoles, et il est parti. J'ai dit « Merde, comment je vais faire ? Si le machin n'y arrive pas avec ses grosses dents, moi, avec ma petite pioche, je ne vais pas y arriver. » Et il y avait un jeune qui s'installait au village, mais lui, il n'avait pas d'argent, il a acheté un tout petit tractopelle, et je lui ai fait faire un tout petit trou, et dans ce tout petit trou, j'ai mis une poignée de bonne terre que j'avais dans mon jardin, à chacun des oliviers. Et puis, après, j'ai essayé de labourer, mais je cassais les dents de ma petite cover crop et d'une petite charrue pour pas... Eh bien, je cassais les dents, en plus... Cette pierre, c'est une pierre spéciale de carrière, qui servait à faire les meules pour aiguiser. Donc tous les outils, ils s'usent à une allure. Voilà. Et alors j'ai planté, alors je suis allé voir le magasin agricole et je lui ai dit quelle est ta semence la moins chère, parce que je voulais créer de l'engrais vert. Mais si j'aurais mis de la luzerne, jamais ça aurait poussé. Ou, voilà. Il fallait vraiment que j'aie un grain, quoi, quelque chose de. Et il m'a dit ben, l'avoine. Mais pas en tant que semence, hein, ça aurait été trop cher. Alors la première avoine, elle est sortie petite comme ça, mais jaune. Là, et puis, vu que j'étais en train de sauver une coopérative, il y avait des déchets qui ne savaient pas quoi en faire. Donc j'étalais des déchets, des grappes de raisin, des pulpes d'olive dans les champs. Et la deuxième tournée, elle est devenue comme ça, mais jaune. Hein, parce qu'il y a 4 d'acidité, etc. Et après, c'est devenu comme ça. Mais bon, au bout de plusieurs mois. Et enfin, j'ai eu un grain. Et là, du coup, je n'avais plus à ressemer. Et à partir de là, je rajoutais, j'enfouissais le peu d'engrais vert, etc. Donc, ça a été un travail de patience. Et puis après, on m'avait tellement découragé que j'ai voulu un peu me venger, mais gentiment, de tous les jours d'avoir les paysans, du coup, les vieux à la retraite, les amis, les chercheurs qui me disent « Mais ça ne sert à rien tout ce que tu fais, ça ne poussera jamais ». Et les premiers olives que j'ai mis, c'est cette fameuse olivière, vu que j'en ai mis 600 pour redynamiser cette variété. Et pourquoi je l'ai choisie? Je ne savais pas qu'elle allait donner une huile d'olive extraordinaire pour la réhydratation de la peau et que les Japonais avaient calculé que c'était celle-ci la meilleure aussi. Je l'ai mise parce que c'est la variété qui pousse la plus rapide et qui est la plus résistante au froid, une des plus résistantes au froid. Et vu qu'on a un courant d'air très froid qui tombe du Larzac, on est les preuves sur la, voilà. Et donc, en 3 ans, j'ai eu des arbres assez gros et les gens, ils étaient surpris. Et au bout de 4 ans, j'avais déjà une récolte, une poignée. Vous voyez, il y a eu plusieurs facteurs, mais je n'ai jamais cessé d'apporter des éléments organiques sur cette terre pour que ça fasse du compost. Et maintenant, 20 ans après, donc, c'est devenu des oliviers énormes, les gens n'en croient pas leurs yeux. Et les gens qui sont venus à la maison faire des cures le savent. Eh bien, maintenant, vu que je plante sans arrêt des arbres, puisque j'arrête pas de trouver des nouvelles, enfin des anciennes nouvelles variétés, donc je vais prendre un peu de terre sur celle-là, parce que maintenant j'ai une petite couche comme ça de terre. Alors j'en prends un petit peu que je mets pareil dans le petit trou. Je les laisse démarrer, et puis avec cette petite terre, ils se font un peu de racines, et puis, je ne sais pas, ils veulent m'être sympathique, peut-être, je ne sais pas, ils poussent. Mais c'est vrai que c'est un miracle. Alors du coup, ma satisfaction, c'est que d'une terre stérile, condamnée par tous, j'en ai fait une oasis d'abondance. Parce que les gens, quand ils viennent, ils goûtent, ils mangent, il y a de l'abondance partout. Voilà, et ça, je trouve que... Voilà, ça me fait plaisir. Ça, voilà, 25 ans de travail. Et puis, je peux donner des greffons à plein de gens. Les gens, quand ils goûtent, après, ils veulent plus. Ils veulent plus, voilà. Parce qu'ils se sont conditionnés à des choses sans goût. Quand ils goûtent un fruit qui a du goût, voilà, c'est tout autre chose. Parce qu'il y a des émotions qui vont ressurgir du passé, des parents, des grands-parents. Voilà, c'est notre histoire, en fait. La biodiversité, c'est notre histoire. Nous réactivons nos origines, quelque part. Hein, maintenant, il y a une autre spécialité dans la médecine, c'est de la médecine transgénérationnelle. Eh bien, en sauvant la biodiversité, en reconsommant ces fruits que nos aïeux, à travers les siècles, ont sélectionnés, on se réapproprie une part de notre histoire. Moi, je le ressens comme ça. Hein, parce que, voilà, on n'est pas des pantins. Pourquoi on dépendrait de variétés américaines, hein, la Pink Lady qui est faite dans le monde entier. Vous voyez, vous allez en Thaïlande, au Maroc, aux 4 coins de la planète, Pink Lady. Pourquoi on devrait se soumettre à des diktats alors que là, rien que là, sur 10 kilomètres, il y a peut-être 100 variétés de pommes qui ont disparu. Au moins. Vous voyez, donc, il faut que nous reprenons en main notre autonomie alimentaire, notre patrimoine. Et je vous assure, voilà, c'est satisfaisant parce que la santé de l'homme et de la nature en dépendent.
Vous écoutez la conférence de Raphaël Colitti, thérapeute, agriculteur et créateur de conservatoires de la biodiversité nourricière et de nouvelles filières agricoles produisant des alicaments. Cette conférence est enregistrée lors de la foire Biocibel 2018 à Groyer, qui était organisée par l'association Nature et Progrès Tarn.
Où en est la maladie qui a attaqué plusieurs champs d'oliviers en Méditerranée?
Oui, alors.
Parce qu'on a entendu parler.
Oui, alors j'ai été un des premiers à agir. C'est même moi qui ai informé le ministre, pour vous dire. Alors, il y a plus de personnes qui travaillent pour les agriculteurs que d'agriculteurs. C'est une honte. Eh bien, ils ne savaient même pas, tous ces gens qui sont là en alerte, mais pour nous emmerder, ils sont bons. Pour nous faire remplir des papiers, pour venir nous contrôler, pour nous mettre des amendes, alors ça, parfait. Mais pour. Mais pour s'occuper de maladies internationales qui risquent de foutre en l'air, pas seulement l'olivier, mais la vigne, les trois quarts des arbres fruitiers, personne. Alors moi, tout de suite, par mes réseaux, j'ai été mis au courant. Tout de suite, j'ai mobilisé des homéopathes, des pharmaciens alternatifs pour créer une contre-bactérie parce que les 600 chercheurs mondiaux de la fastidiosa, c'est cette maladie que vous citez, eh bien, on dit, ils se sont réunis dans les Pouilles, ils sont venus du monde entier, ont coûté je ne sais pas combien de millions pour se réunir, pour dire, nous ne pouvons rien faire, il n'y a rien à faire. Mais moi, je n'ai pas attendu qu'ils disent ça. J'ai mobilisé mes réseaux et j'ai dit, on va créer, on a pris la maladie et on en a fait un auto-vaccin homéopathique. On a essayé plein, on a mis de l'argile, on a fait plein d'essais. Bon, ça, c'est une réponse, mais pour vous dire, j'ai informé le FOL. C'est quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Normalement, il aurait dû interdire toute importation d'olivier. Et moi, je connais tous les pépiniéristes, puisque maintenant, avec toutes ces variétés qu'on a sélectionnées, moi, je les donnais, tout ça. Et mon fils m'a dit, mais papa, t'es fou. Moi, je vais gagner de l'argent avec. Et maintenant, il a 11 employés. Il y a 6 mois d'attente pour avoir les variétés. Donc, on connaît le monde des pépiniéristes. Ben, tous ont continué sans aucun problème à importer des oliviers d'Italie. Ça n'a jamais arrêté. Et j'ai dit, mais t'as au moins eu un contrôle. Ah non, jamais. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on est gouverné par des incompétents. On est gouverné par des gens qui ne... Ça y est, ils sont déconnectés de la réalité. Je ne sais pas quoi vous dire, ils marchent sur la tête. Et les gens disent, oh ben non, c'est quand même, ils ont fait des études. Mais quelles études?
C'est en train de zigouiller.
Ah ben, de toute façon.
La mouche Suzuki qui attaque les cerisiers.
Oui, mais de toute façon, ça va être difficile de cultiver. Hein, entre les changements climatiques. Moi, depuis 5 ans, je suis soit inondé, soit 7 mois de sécheresse l'année dernière, soit des attaques de mouches sans précédent. Eh ben, je comprends pourquoi dans l'oléiculture, par exemple, il n'y a pas de bio. Les bio, moi, j'ai essayé de monter une filière bio, je me fais insulter. Et ils me disent, c'est à cause de toi qu'il y a de la mouche, parce que tu ne les tues pas avec les produits chimiques. Mais moi, je les tue différemment. Je masque avec de l'argile, j'émets des pièges, voilà. Eh bien, il y a la mouche du noyer, il y a la mouche de la cerise, ça devient infernal. Alors, c'est pareil, j'ai sollicité des amis qui ont une ouverture vers des traitements naturels et bio. Et eux, ils sont en train de faire des essais avec ce qu'on appelle des EM. Voilà. Et avec des EM et avec des plantes. Par exemple, pour la mouche de l'olivier, on a mis dedans des fougères, des piments, de la prêle, plus des micro-organismes pour renforcer vraiment l'immunité de la plante pour qu'elle combatte la mouche. Pour le cerisier, c'est pareil. Mais les officiels, eux, la réponse est chimique, encore plus de doses chimiques. Et après, vous allez le manger. Mais c'est vrai qu'on a tellement perturbé l'agriculture que c'est un peu la débandade, quoi. Maintenant, les plantes, elles sont malades pour un rien parce qu'il n'y a plus d'immunité. Il n'y a plus d'immunité dans le sol. On a creusé beaucoup trop profond. On a provoqué un déséquilibre tellement profond que les maladies arrivent de partout. Et je vous assure, j'ai des amis qui arrêtent. Hein, ils ont la soixantaine, ils disent on n'en peut plus. Et il y a trop de maladies, il y a trop de sécheresse, il y a trop de pluie d'un coup qui fait pourrir le foin, etc., etc. Donc, être agriculteur aujourd'hui en bio ou en biodynamie, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut se servir de la biodiversité qui est beaucoup plus résistante. Et il faut en revenir à des méthodes respectueuses et pour pas provoquer de déséquilibre et s'occuper du sol en premier. Parce que l'immunité du sol, hein, il y a toutes ces mycorhizes, il y a toutes ces défenses immunitaires qui vont renforcer la plante. La plante va produire quelque chose qui va nous aider à renforcer notre propre immunité face à la maladie. Et la boucle est bouclée.
Vous n'avez pas parlé des traitements avec des purins de plantes. Moi, je les utilise et apparemment, ça a une certaine efficacité. Alors là, j'en suis arrivé, le meilleur que j'ai trouvé, c'est le purin de lierre. Alors il est un peu difficile à faire parce que le lierre, il pourrit pas vite. Mais j'ai réussi à sauver des ormeaux. Et les ormeaux, comme vous savez, ils vont mal. Et à deux ou trois reprises, ils ont failli mourir. Et là, maintenant, ils ont l'air cette année d'être en pleine vigueur. Sauf que c'est pas tout à fait les ormeaux de la jeunesse, qui avaient des larges feuilles qui poussaient très vite. Ils ont beaucoup de feuilles, petites, comme s'ils avaient muté. Et ces produits, il y a le purin de Brionne aussi, qui est très efficace. Et peut-être, donc j'avais commencé avec le purin d'ortie, de prêle et tout ça. Mais j'ai trouvé que ça, toutes les plantes qui ne sont pas malades, sauvages, a priori peuvent faire du purin de traitement. Alors, la fermentation, c'est à des fois un peu compliqué, parce qu'il y en a qui fermentent en 8 jours, il y en a qui fermentent en 8 mois.
Alors, juste avant que de te laisser, demain matin, vous avez un atelier avec M. Thomas Braille qui va venir vous parler des purins à 10h. Donc ici, donc vous avez, ça va être le sujet, oui, demain.
Alors, bravo monsieur d'avoir trouvé cette solution. Les purins sont utilisés depuis longtemps. Comme vous le savez, ils ont été interdits. Maintenant réhabilité. Alors le lierre, quand vous goûtez du lierre, il y a cette amertume. Et quand dans tous les légumes, dans tout ce que vous pouvez manger, vous sentez de l'amertume, c'est qu'il y a du polyphénol. Donc il ne va pas se faire pourrir comme ça, parce que les polyphénols, eux, ils sont là pour garder la vie. Donc c'est normal que le lierre soit difficile à fermenter, hein, du fait de ces actifs polyphénoliques. Alors, c'est efficace parce que il va aller aider la plante à aller chercher sa défense immunitaire. Il va lui donner des oligo-éléments. La prêle va donner de la silice, du silicium. Le silicium, c'est primordial, même pour nous, êtres humains. La cellule ne peut pas tenir debout. Vous voyez, si une plante tient debout, c'est parce qu'elle a du silicium. Et donc, tous ces purins deviennent des concentrés parce que la fermentation a accentué le processus et donc ça coûte rien, c'est à notre disposition. Donc c'est la première chose qu'il faut faire, ce sont les purins. En plus, ils vous donnent de la fertilité aux plantes, ils vous donnent des oligo-éléments, ils vous donnent de l'azote, les plantes poussent plus vite sans maladie, vraiment, on a tous les avantages. Voilà, alors, moi, j'ajoute des EM. Hein, voilà. Alors, pour le moment, c'est un brevet japonais qui a vendu à un Allemand son brevet. Donc, c'est un brevet, donc on paye un peu. Mais bientôt, on va savoir les faire. On est en train de mettre des méthodes au point pour que les faire nous-mêmes. Et ces petites particules qui accroissent la vie dans le sol et donnent à manger à tous ces micro-organismes. Voilà, il faut les complémenter, à mon avis, avec ces purins d'ortie. Ça va vraiment faire quelque chose de fort. Voilà. Après, vous avez d'autres méthodes, hein, c'est de l'électroculture. Il y a vraiment plein de techniques qui ne coûtent rien à faire dans le sol. Même des grandes étendues. Hein. Maintenant, on peut mettre des piquets en cuivre, du zinc. On peut vraiment avoir une autre vision de...
Est-ce que vous pouvez nous parler du BRF ?
Oui, alors, le BRF, c'est une technique que les Canadiens ont mis au point. Alors, c'est très bien. À part que les gens pensent qu'en jetant une poignée de BRF, ça va solutionner la vie du sol. Il faut du BRF au moins 7 cm, 5 à 7 cm. Donc, ça veut dire au moins ça. Voilà. Il en faut beaucoup de BRF. Donc, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Enfin, à moins d'avoir des bois et des bois. Mais il faut y aller petit à petit. Il vaut mieux mettre une grosse couche de BRF que peu et partout. Mais là, c'est immédiat. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir la vie du sol, le sol qui est compact par l'argile, par les cailloux. Vous allez voir comme les vers de terre et tous les micros, les millions de vont faire les allers-retours. Mais il faut que ça soit frais. Il ne faut pas attendre. Hein. Dès que vous broyez, il faut étaler.
Alors moi, ma question, c'est en rapport aux perturbateurs endocriniens que vous mentionnez tout à l'heure. J'aimerais savoir, parce que je m'étais renseigné un petit peu sur Jean Duchoiseau, je pense. On parle d'endocrinopsychologie. Voilà. Et certains le mettent dans un tiroir un peu de homme occulte, etc. Bref. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui est fait en l'occurrence vis-à-vis de ça, vis-à-vis des perturbateurs endocriniens, nos hormones en fait.
Alors, la recherche. Pardon. Là, vous soulevez un gros problème. Un énorme problème. Parce que maintenant, dans notre société, le plastique est roi. Alors non seulement il est roi ici en Occident, mais il est roi partout sur la planète. Et j'allais en Inde, je suis allé à Auroville il y a 3 ans pour faire un verger médical tropical. C'est partout, dans les rivières. Vous allez vous baigner, vous faites comme ça, vous écartez du plastique. Mais le plus dangereux, c'est l'aliment que vous allez manger dans l'immédiat. Et même l'eau, il vaut mieux qu'elle soit dans une bouteille en verre. Les gens ne boivent plus l'eau du robinet parce que les sols ont été tellement pollués. Et les bouteilles d'eau sont stockées au soleil. Et en fait, elles sont plus dangereuses que favorables, bien qu'au départ, elles étaient pures. Donc, il y a d'énormes problèmes sur la santé.
Est-ce qu'on a trouvé quelque chose, justement ?
Enfin, au dernier congrès où j'ai assisté, une Américaine est venue, et là-bas, ils ont des tas de problèmes. Non, il faudrait revenir à des choses plus simples, moins consommer, consommer de la proximité, moins emballer, moins... Et puis, je ne sais pas, Sylvie, si tu as... une réponse, mais voilà, c'est nous qui avons créé ces perturbations en consommant toujours du plastique.
On est tous des mutants, hein. Sinon on pense que demain il faut se suicider tous. Donc je pense qu'on est en train de muter là aussi, mais si on démarre avec une bonne immunité au niveau de nos intestins, on passera des étapes les unes après les autres. Après, évidemment, aller à la source et ne plus employer certains produits. Mais se mettre dans une bulle aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire, mis à part ça.
Dans le Roundup, il y en a. Mais pas le Roundup, le glyphosate. Le plus dangereux, c'est le goudron issu du pétrole qu'il y a autour du glyphosate. Alors là, ça détruit tout.
Alors ce que fait Jean Duchoiseau, il fait en fait une analogie et un lien entre la biologie au niveau endocrinien et la psychologie. Donc, et l'impact, l'interaction entre la partie physique et la partie psychique. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Et effectivement, chaque partie au niveau hormonal, on a 12 des glandes au niveau hormonal, chacune vont correspondre à effectivement un fonctionnement précis au niveau psychologique et affectif. Donc lui, il fait le lien entre les deux, et à mon avis, ça fait partie des multiples techniques qui mettent le lien entre le corps et l'esprit et qui évitent de faire des divisions où on est chacun dans notre spécialité et on ne regarde plus du tout l'intelligence globale qui nous anime. Le corps est intelligent, il a sa propre immunité, il est capable de s'autodéfendre. Qu'est-ce que nous faisons pour le favoriser ? Qu'est-ce que nous faisons pour le freiner ? À partir du moment où on commence à comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit, à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire des choix conscients de savoir je fais quoi, je mange quoi et je pense quoi. Et si on commence à dire je pense d'un côté et puis je fais quelque chose de l'autre, non, ça peut pas marcher. Le corps humain et tout le vivant est comme ça. Il a un programme d'immunité, il a un programme de sauvegarde. Si on ne sait pas respecter ses fondements et ses fonctionnements dans ses fondamentaux, forcément, on crée des déviations. Donc, là où Jean Duchazou a fait le lien, il y en a plein d'autres. Hein. On en parlera au salon en 2020 sur la maladie. Le lien entre psychisme et le biologique, c'est évident, ça fait qu'un. Nous, on est parti dans une spécialité parce qu'on est des techniciens, on est des pros, on sait faire plein de choses. Mais on a perdu la vue globale qui nous permet de comprendre l'interaction entre l'un et l'autre. Donc, à mon avis, oui, agent Duchazou, vous pouvez le suivre.
Voilà, donc, moi, je continue. C'est-à-dire que je travaille à créer toujours de nouvelles filières. Donc là, je viens d'en sortir une il y a quelques mois, la filière des agrumes rustiques. À partir de 85 agrumes rustiques que j'ai dehors, il fait le même climat qu'ici, peut-être plus rude encore, parce que je suis juste en dessous du Larzac. Ici, vous avez l'influence océanique. Eh bien, j'ai trouvé une molécule dans un des agrumes qui est le yuzu, des agrumes anti-burnout. Alors, tout de suite, j'ai des commandes énormes de laboratoire, mais moi, c'est pas moi qui veux produire. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, j'ai des conservatoires où j'ai une dizaine de yuzu différents, où j'ai des mandariniers spéciaux, des oranges, des pamplemousses spéciaux, etc. Et le yuzu me paraissait d'être... je voulais pas faire une filière que sur cet agrume qui est déjà très connu. Je voulais aussi faire connaître d'autres agrumes qui sont importants pour la santé et qui peuvent aussi être utiles pour les grands chefs. Comme, par exemple, l'érème orange, qui est un agrume extraordinaire, qui est utilisé en cuisine et aussi pour faire des huiles essentielles relaxantes. Eh bien, l'érème orange se négocie à l'heure actuelle 200 euros le kilo. Donc, il n'y gèle pas, lui. C'est le seul qui n'a pas eu les feuilles qui ont frisé cet hiver. Et lui, il résiste à moins 18. Après, j'ai sélectionné une orange pour les diabétiques, qui n'a pas de sucre. Voilà, donc j'ai fait un petit cocktail de 5 agrumes pour que l'agriculteur n'ait pas qu'un seul... parce que si une année, le yuzu ne donne pas parce que la fleur est tombée, il peut retomber sur ses pattes en ayant... Voilà. Ensuite, je suis... sur une filière de tubercules. J'ai sur mon stand la patate violette d'Okinawa, qui fait partie du régime d'Okinawa. C'est pour ça que les gens vivent jusqu'à 120 ans en moyenne, et qui est très intéressante au niveau des anthocyanes et des polyphénols. Et là, je viens de créer un emploi rien que sur cette patate. Un jeune qui avait fait faillite, avec une serre, parce qu'il faisait des diplodénias, et ça fait des années, je lui dis, mais arrête de faire cette merde, parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette fleur, tu mets plein d'engrais, et tu vas te ruiner la santé, et là, il y a un client qui ne lui a pas payé, parce qu'il ne s'adresse qu'à des grossistes, donc il ne l'a pas payé 200 000 euros, parce qu'il a fait... Enfin bref, donc il est venu me voir, il m'a dit, toi qui trouves du travail, là, qu'est-ce que je peux faire? Alors je lui dis, tu vas faire ça, mais en bio. Voilà, alors... Voilà, il a un peu, puis vu qu'il était coincé, il le fait en bio. Et le yacon, qui s'appelle communément la poire de terre. Alors là, l'intérêt du yacon, c'est que c'est un antidiabétique, mais pas que, puisque le yacon a un taux de linuline très très fort, et c'est un prébiotique. Alors j'en avais offert un à mon ami Marion Kaplan, et puis l'autre, il y a 6-7 mois, elle me dit, mais ton truc, il y a un tubercule, est-ce que je ne vais pas m'empoisonner? Je lui dis, ton truc, il est au cœur de la thématique dont tu parles, des prébiotiques depuis des années. Je t'ai non seulement donné la solution en t'offrant ce légume, mais toi, tu parles techniquement, et moi, je te parle avec la terre. Donc, voilà. on unit nos forces, on a fait on a publié, voilà. Alors le Yacon, ça vient des Incas. Hein, les Incas avaient cultivé ce tubercule, et les coursiers qui allaient de chaque ville pour informer, pour faire je ne sais pas quoi, ils avaient dans une poche la spiruline et dans l'autre le Yacon. Non, mais pour vous dire, mon fils, quand il s'est installé sur la spiruline, on n'a pas voulu lui donner la DGA alors qu'il avait un BTS agricole. On lui a dit non, spiruline et arbre fruitier ancien. Ah non, ça ne peut pas marcher. Au bout de 2 ans, il payait 10 000 euros d'impôts. Il a cassé tous les trucs de la MSA, les plafonds de la MSA pour les cotisations. Donc pour vous dire que les gens qui nous gouvernent sont vraiment des imbéciles. Et donc là, avec ces deux tubercules, voilà, on va pouvoir créer des... Parce qu'il n'y en a pas en France. Et il y a une demande énorme. Et puis j'ai une troisième filière. Là, je suis prêt, par contre. Par contre, mes amis cancérologues, médecins, eux, ils me regardent d'un drôle d'œil. C'est sur les cannabinoïdes. Donc, j'ai 300 variétés de cannabinoïdes. Aux États-Unis, ils soignent les cancers. En Tchécoslovaquie, en Suisse, dans plein de pays, ils soignent les articulations, etc. Mais en France, oh là là. Alors, j'ai déjà assez d'ennuis avec la légalité. Donc je le laisse de côté. Pourtant, il n'y a pas de THC. Par contre, l'État qui voit d'un mauvais œil toutes ces choses alors qu'il n'y a pas de drogue dedans, il laisse nos jeunes fumer ou faire des gâteaux ou quoi que ce soit avec du cannabis qui a 50% de THC. Ce sont des OGM. Alors moi qui suis beaucoup au contact des jeunes qui... Je travaille avec eux, ils viennent en stage où je les ai comme employés. Je dis, mais c'est pas possible. Dans mon petit village, le mec, il prend de l'héroïne, il prend de la coke, c'est pas possible. Le cerveau, il n'imprime plus. Et après, un jour, il y en a un qui a fait une crise, et je lui dis, maintenant, tu vas me dire ce que tu prends. Il m'a dit, mais moi, je fume ça. Et quand j'ai vu d'où il le prenait, c'est du hashish OGM, il y a 50% de THC au lieu de 8, 10, quoi. Donc, voilà. Voilà. Enfin, moi, c'est pas pour le THC, puisqu'il n'y en a pas. J'ai que, dans mes 300 variétés, j'ai que 1% de THC. J'aimerais en avoir 2% pour calmer la douleur. Bon, mais ça, bientôt, c'est légalisé aux États-Unis. J'ai, par exemple, des variétés pour le Parkinson. J'ai des variétés pour la sclérose en plaques. J'ai des variétés pour la rhumatoïde. Voilà. Bon. Mais pour le moment, j'ai mis je refais des semences chaque année pour garder les graines vivantes, parce que 300 variétés, j'en ai bavé pour j'ai ramassé de partout en Suisse, dans tous les pays, et voilà. Donc c'est pas parce que j'ai des filières qui ont réussi, je pourrais m'arrêter là, mais je me dis il y a tellement à faire et moi il me faut 5 ans pour arriver à créer une filière, parce que j'ai pas que ça à faire non plus, et je fais des analyses, je fais des essais, je cherche les variétés, etc. Donc, encore une fois, grâce à la biodiversité, parce que ces 300 variétés de cannabinoïdes, c'est la biodiversité. Il y en a que j'ai pris dans une montagne en Suisse, l'autre en Bavière, d'autres sur l'Atlas marocain, d'autres qui viennent du Liban, etc., etc. Oui, ah ben, CBD, c'est thérapeutique. CBD, c'est pour soigner le cancer. Ça, je peux le dire, je l'ai vu. Hein. Et c'est quand j'ai vu ces personnes qui avaient deux personnes avec le cancer du sein soignées avec de l'huile de cannabinoïdes.
Ça va permettre à faire remonter les vieilles mémoires qui ont été bloquées et traumatisées. Et c'est le rôle, justement, du psychotrope qui est à l'intérieur. Et suivant ce que je comprends, c'est que vous êtes allé chercher plusieurs essences différentes en fonction des besoins différents de l'individu pour élargir un spectre. Mais je pense que c'est la fondamentale de la plante.
Il faut attendre, on est trop tôt. On est encore trop tôt. Et moi, je suis trop pointé du doigt. Je ne peux pas tout seul sortir ça parce que là, j'ai tous les inspecteurs sur le dos. Mais alors qu'il n'y a rien d'illégal. Mais c'est ce qu'on a véhiculé dans la société. Et je le dis d'autant plus librement que même si je suis un 68ard, j'ai jamais fumé. Voilà. Donc, je suis anormal aussi, hein, parce que normalement, j'aurais dû fumer. J'ai jamais fumé, mais... mais voilà. Très bien, je vous remercie de votre écoute.
C'était la conférence de Raphaël Colizzi, thérapeute et agriculteur, ainsi que créateur des conservatoires de la biodiversité nourricière et de nouvelles filières agricoles produisant des alicaments. Cette conférence a été enregistrée lors de la foire Biocibelle 2018 à Groyer, qui était organisée par l'association Nature et Progrès Tarn, et s'intitulait « Santé et sagesse de la terre ».